La Sociale Le Mag, un podcast de la Cour de cassation. La jurisprudence de la Chambre sociale, racontée par ceux qui la font. Avec les conseillers
Sophie Rodriguez
et Alain Carillon. Bonjour Alain.
Bonjour Sophie.
Ce mois-ci, notre podcast est thématique et porte sur une question de procédure, celle dite des demandes nouvelles. L'hypothèse est celle où une demande est présentée au juge prud'homal et où, en cours d'instance, devant le même juge ou en appel, une autre demande concernant le même contrat de travail est formée. Pour en parler, nous recevons Monique Douzamy, conseillère à la Chambre sociale de la Cour de cassation. Bonjour Monique.
Bonjour Sophie, bonjour Alain.
Avec vous, Monique, nous allons aborder cette question des demandes nouvelles s'agissant d'abord de leur recevabilité et ensuite de l'effet interruptif de prescription de la demande initiale sur ces demandes nouvelles.
Ces questions présentent une actualité particulière parce que la Chambre sociale de la Cour de cassation a récemment tenu une audience thématique regroupant plusieurs pourvois concernant de telles demandes. Elle a donc rendu, le 10 juillet dernier, une série de 5 arrêts importants concernant la procédure prud'homale.
Pour bien comprendre la valeur de ces arrêts, rappelons au préalable que la procédure prud'homale a connu une importante évolution en 2016 avec la suppression de la règle dite de l'unicité de l'instance.
Cette règle, propre à la matière prud'homale, rendait irrecevables les demandes liées au même contrat de travail formées à l'occasion d'une nouvelle instance introduite devant le Conseil de prud'homme, alors que leur fondement existait déjà à la date de saisine du premier Conseil de prud'homme. À l'inverse, toutes les demandes concernant l'exécution du même contrat de travail formé à l'occasion d'une même instance étaient recevables jusqu'au dénouement définitif de celle-ci, peu important le lien susceptible de les unir ou non aux demandes initiales, et ce, sans que la prescription puisse leur être opposée.
Et qu'a apporté la suppression de l'unicité de l'instance ?
Pour les instances introduites à compter du 1er août 2016, la recevabilité des demandes nouvelles devant la juridiction prud'homale est désormais régie par les règles de droit commun de la procédure civile. Les arrêts du 10 juillet 2024 en précisent l'application à la matière prud'homale pour mieux prendre en considération les spécificités de celle-ci.
Il faut commencer par souligner qu'en droit commun, la recevabilité des demandes nouvelles poursuit un objectif d'effectivité de l'action en justice, en évitant que l'instance ne s'éternise par des modifications incessantes du litige présenté originairement, ou au contraire, que les parties ne soient obligées d'engager une nouvelle instance sur une question en rapport avec la première. Il y a un principe d'immutabilité des demandes. On ne peut pas, au cours du procès, introduire n'importe quelle autre demande. Les raisons de ce principe sont simples à comprendre. En première instance, on cherche à éviter que les parties échappent aux préliminaires de conciliation et devant toutes les juridictions, il s'agit de respecter les droits de la défense. En appel, la prohibition des demandes nouvelles répond en outre à un objectif qui lui est propre et qui tient à l'existence du double degré de juridiction. L'appel tend à faire vérifier par la cour d'appel que les premiers juges ont bien accompli leur mission. Présenter une demande pour la première fois en appel écarte le double degré de juridiction et ne permet donc pas de répondre à cet objet.
Effectivement, d'autant plus que dans certaines hypothèses, le salarié pourrait se voir privé de la possibilité d'engager une nouvelle instance en se voyant opposer l'autorité de la chose jugée en application du principe de concentration des moyens dégagé par l'arrêt Césaréo.
Le décor étant ainsi installé, évoquons successivement les deux décisions qui concernent la recevabilité des demandes nouvelles en première instance et en appel. Monique, vous étiez rapporteure du premier dossier ayant donné lieu à l'un des arrêts du 10 juillet dernier que nous allons évoquer. Pouvez-vous nous en exposer rapidement les faits ?
Eh bien, dans ce dossier, la salariée licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement a saisi le Conseil de prud'homme pour faire déclarer son licenciement nul et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture et pour préjudice moral. elle faisait valoir que l'inaptitude était la conséquence du harcèlement moral dont elle avait fait l'objet. En cours d'instance devant les premiers juges, elle a formé des demandes additionnelles en paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum.
Se posait donc la question de la recevabilité de ces demandes additionnelles. Rappelons d'abord que, selon l'article 65 du Code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions initiales. Ensuite, que les articles 4 alinéa 2 et 70 du Code de procédure civile prévoient que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles présentent un lien suffisant avec la demande originaire.
Le terme « lien » semble plus large que les notions habituelles de la procédure civile que sont l'objet ou le fondement des demandes. L'adjectif « suffisant » est quant à lui assez flou. Cela laisse une certaine marge d'appréciation, non ?
C'est effectivement ce qui ressort d'abord de l'arrêt. En effet, la demande originaire et les demandes additionnelles n'avaient ni la même cause, ni le même objet. En outre, la demande originaire portait sur la rupture du contrat de travail, alors que les demandes additionnelles portaient sur l'exécution de ce même contrat. Pour autant, la salariée invoquait le non-respect de sa classification conventionnelle, tant comme élément laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral fondant sa prétention originaire en nullité du licenciement, qu'à l'appui de ses demandes additionnelles de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles. Ainsi, les demandes additionnelles reposaient sur l'appréciation des mêmes éléments que la demande originaire, tenant au respect de sa classification, et obliger la salariée à introduire une seconde instance sur cette même question du respect de la classification déjà jugée lors de la première instance, générait un fort risque de contrariété de décision. La Chambre sociale a donc retenu comme critère pertinent du lien suffisant la similitude des éléments invoqués au soutien des demandes originaires et additionnelles créant un risque de contrariété de décision, peu important l'objet et la cause des demandes et le fait qu'elles portent sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail.
L'arrêt apporte donc une première précision sur l'appréciation par la Cour de cassation du lien suffisant avec les prétentions originaires.
Monique, quel est l'autre apport de cet arrêt, selon vous ?
Alors cet arrêt vient préciser le contrôle opéré par la Cour de cassation. De manière générale, la Cour de cassation juge qu'il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier s'il existe un lien suffisant entre la demande additionnelle et les prétentions originaires. Toutefois, quelques arrêts admettent un contrôle. Et c'est ce que la Cour de cassation a fait par cet arrêt. Elle a exercé un contrôle sur les conséquences légales tirées par les juges du fond de leur constatation souveraine.
Parlons à présent d'un deuxième arrêt du 10 juillet dernier, qui concerne la recevabilité des demandes nouvelles en appel.
Il convient de rappeler que l'article 564 du Code de procédure civile pose le principe de l'interdiction des demandes nouvelles en appel. Toutefois, au terme de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Et l'article 566, toujours du même code dans sa rédaction actuelle, apporte un autre tempérament au principe en disposant que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Mais cette exception n'est pas le fondement de l'arrêt que nous évoquons.
Les demandes qui tendent aux mêmes fins que la demande d'origine sont donc recevables. À nouveau, avec les termes « même fin », on sent qu'une marge d'appréciation est laissée au juge.
Oui, on se rend bien compte qu'il peut être difficile d'identifier des critères théoriques de recevabilité parce que la notion de demande nouvelle apparaît très casuistique.
Un groupe de travail a été constitué pour approfondir la réflexion sur cette notion de demande nouvelle et a été l'occasion d'échanger entre magistrats de la Chambre sociale et de la deuxième Chambre civile. Monique, que pouvez-vous dire des constats qui ont été faits ?
Il est apparu que la deuxième Chambre civile interprète largement la notion de demande nouvelle pour préserver l'accès du justiciable au juge. Cette conception s'exprime notamment à travers l'office du juge d'appel qui, lorsque l'irrecevabilité d'une demande nouvelle est soulevée sur le fondement de l'article 564 du Code de procédure civile, doit vérifier au besoin d'office qu'aucune des exceptions prévues par les articles 564 à 567 n'est susceptible de rendre cette demande recevable.
D'accord. Et particulièrement en matière prud'homale, la Chambre sociale s'est-elle déjà prononcée sur la notion de même fin ?
Oui, adoptant l'approche pragmatique des autres chambres civiles de la Cour de cassation, elle a jugé que la demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis celle au titre de la nullité du licenciement, tendait aux mêmes fins, dès lors qu'elles visaient toutes les deux l'indemnisation des conséquences du licenciement que le salarié estimait injustifiée.
Cette solution rejoint effectivement celle des autres chambres civiles. Lorsque l'objet de la prétention formulée en appel apparaît comme étant l'expression d'une autre forme de l'exercice d'un même droit, cette prétention n'est généralement pas considérée comme nouvelle.
La Chambre sociale a encore notamment jugé que tendait aux mêmes fins, d'une part, les demandes de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles applicables sur le travail de nuit et pour manquement à l'obligation de protection de la santé, et d'autre part, la demande de dommages et intérêts fondée sur la prohibition du harcèlement moral formée devant les premiers juges, à savoir l'indemnisation des conséquences du non-respect par l'employeur de ses obligations découlant de son obligation de sécurité. Ainsi, même présentées pour la première fois en appel, ces demandes étaient recevables.
Dans le deuxième arrêt du 10 juillet dernier, la Chambre sociale devait se prononcer sur le caractère nouveau d'une demande d'indemnité au titre des congés payés acquis lors d'une période d'arrêt maladie formée en appel alors que le salarié avait formé en première instance une demande d'indemnité pour des congés payés acquis à un autre titre, à une autre période.
Oui, les faits étaient les suivants. Le salarié a été placé en arrêt de travail et les arrêts de travail se sont prolongés pendant plus de 2 ans. Déclaré apte à son poste lors de la visite de reprise, il s'est vu imposer par son employeur le jour même la liquidation immédiate de ses jours de congés payés. Licencié pour motif économique, il a demandé la nullité de son licenciement et formulé en première instance notamment deux demandes au titre des congés payés, ceux afférents à la période d'éviction, entre son licenciement et sa réintégration, et ceux que l'employeur lui avait imposé de prendre sans délai de prévenance à sa reprise du travail. En cause d'appel, il a ajouté une demande nouvelle au titre des congés payés acquis durant la période antérieure, c'est-à-dire pendant son arrêt maladie.
La Cour se trouvait face à un choix entre une interprétation restrictive, qui risquait de priver le salarié de toute possibilité de présenter cette demande, et une interprétation large, qui méconnaîtrait le principe du double degré de juridiction et reviendrait à ressusciter le principe de l'unicité de l'instance.
Oui. Et il faut ajouter que la procédure prud'homale présente des particularités par rapport à la procédure civile classique. Ces particularités tiennent d'une part au maintien en première instance d'une procédure orale qui autorise la présentation de demandes par des personnes qui ne sont pas des professionnels du droit, et d'autre part à ce que le contentieux présente une multiplicité d'objets de litige ayant des caractéristiques voisines. Licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement nul, manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement.
Quelle a été la décision de la Cour de cassation ?
Elle a retenu que ces deux demandes tendaient aux mêmes fins, à savoir garantir la possibilité pour le salarié d'exercer effectivement son droit à congé acquis. C'est en se fondant sur cette finalité commune aux différentes demandes que la Cour de cassation a retenu que la demande au titre des congés payés acquis durant la période d'arrêt maladie d'origine professionnelle formulée pour la première fois en appel tendait aux mêmes fins que les demandes initiales en paiement des congés payés afférents à la période d'éviction et d'une indemnité compensatrice au titre des congés payés que l'employeur avait imposé au salarié de prendre sans délai de prévenance.
Autrement dit, ces différentes demandes poursuivaient la même fin qui était l'indemnisation du salarié au titre de ses congés payés acquis en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de permettre au salarié d'exercer effectivement son droit à congé, peu important, comme le précisait l'arrêt, que le fondement juridique de chacune de ces demandes fût différent. Évoquons à présent, Sophie, l'apport des 3 autres arrêts du 10 juillet dernier qui se sont prononcés précisément sur la question de l'effet interruptif de la prescription.
Pour comprendre cet apport, il faut commencer par rappeler les règles de droit commun. D'abord, la demande en justice interrompt le délai de prescription. Un article du Code du travail le prévoit spécifiquement pour la saisine du Conseil de prud'homme. Ensuite, en principe, cette interruption de la prescription ne peut pas s'étendre à une autre action, même si celle-ci concerne les mêmes parties, sauf, selon la jurisprudence des chambres civiles, lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Cette jurisprudence trouve à s'appliquer en particulier en cas de litige indivisible ou pour des actions qui tendent à la réparation du même préjudice, mais sur deux fondements différents.
En matière sociale, en lien avec la règle de l'unicité de l'instance, la Chambre sociale de la Cour de cassation jugeait en dernier lieu que si, en principe, comme pour les autres matières civiles, l'interruption de prescription ne pouvait s'étendre d'une action à une autre, il en allait autrement lorsque les deux actions concernaient l'exécution du même contrat de travail. Ainsi, la saisine de la juridiction prud'homale emportait interruption de la prescription pour toutes les actions nées du même contrat de travail, même si leur fondement ou leur but étaient différents. Mais comme nous l'avons déjà dit, les règles posant le principe de l'unicité de l'instance ont été supprimées à compter du 1er août 2016.
Monique, nous revenons vers vous. Car trois des pourvois ayant donné lieu aux arrêts du 10 juillet 2024 ont été l'occasion pour la Chambre sociale d'adapter sa jurisprudence à ce changement majeur.
Oui. Dans les deux premières affaires, deux salariés ont d'abord saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de leur contrat de travail. Ils ont ensuite adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui leur ont été proposé. Puis, ils ont formé devant les premiers juges des demandes additionnelles pour contester leur licenciement économique et obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour d'appel a déclaré leur contestation recevable comme n'étant pas prescrite.
La question posée était, dans cette affaire, celle de la possible interruption du délai de prescription résultant des prétentions originaires sur les demandes additionnelles formées en première instance.
Dans la troisième affaire, un salarié a saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande initiale en nullité de la convention de forfait en jour. Il a été débouté en première instance et en appel. L'arrêt de la cour d'appel a été cassé s'agissant de la demande en nullité de la convention de forfait en jour. Devant la cour d'appel de renvoi, le salarié a formé des demandes nouvelles en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé. La cour d'appel de renvoi a déclaré ces demandes nouvelles irrecevables comme prescrites. Il s'agissait donc là de s'interroger sur la possible interruption du délai de prescription résultant des prétentions de la saisine initiale sur des demandes nouvelles en appel.
Dans ces situations, correspondant donc à nos deux cas de figure, demande additionnelle devant le Conseil de prud'homme, demande nouvelle en appel. Qu'a décidé la Chambre sociale de la Cour de cassation ?
Dans les deux premières affaires, la Chambre sociale a retenu que la demande originaire portant sur la résiliation du contrat de travail et la demande additionnelle en contestation du licenciement économique tendaient toutes à la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail que les salariés estimaient imputables à l'employeur. L'effet interruptif de prescription de la demande originaire en résiliation du contrat de travail est donc étendu à la demande additionnelle en contestation du licenciement économique. Dans la troisième affaire, la Chambre sociale a retenu que la demande initiale en nullité de la convention de forfait en jour et les demandes nouvelles en appel en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé tendaient toutes à la sanction du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de droit au repos et paiement des heures de travail effectuées. Ici, l'effet interruptif de la prescription de la demande initiale en nullité de la convention de forfait est étendu aux demandes nouvelles en appel, en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé.
La Chambre sociale de la Cour de cassation adopte ainsi une conception plus limitée de l'extension de l'interruption de prescription d'une action à une autre que celle ayant eu cours sous l'empire de la règle de l'unicité de l'instance. Peut-on dire qu'elle a fait évoluer sa jurisprudence en la faisant correspondre à celle des autres chambres civiles ?
Oui, elle reprend d'ailleurs la formule que vous avez citée tout à l'heure. Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Pour autant, elle retient, comme les autres chambres civiles, une conception souple de cette exception à l'extension de l'interruption de prescription, en l'admettant lorsque deux actions recherchent le même avantage ou poursuivent le même résultat concret.
La disparition du principe d'unicité de l'instance doit donc conduire les praticiens du droit social à une approche plus circonstanciée des liens existants entre les demandes d'origine et des demandes postérieures.
C'est la fin de notre podcast consacré aux demandes nouvelles et additionnelles. Vous trouverez les références des 5 arrêts du 10 juillet 2024 cités dans ce podcast thématique sur le site internet de la Cour de cassation, rubrique kiosque. Merci Monique, merci Sophie.
Merci à vous.
À bientôt.